La dernière fois, quand j'ai parlé, j'ai effectivement parlé de faveur. Parce que c'est quelque chose, un concept que je découvre depuis 2 ou 3 ans, et où Dieu m'apprend les règles et les lois de la faveur. Il y a des choses qui attirent la faveur sur votre vie, puis il y a des choses qui vont au contraire la repousser. Et la dernière fois, je vous ai dit j'ai partagé quelques points sur comment on attire la faveur sur sa vie ou sur son église. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager comment on la conserve. Parce que un Corinthien, je ne sais plus dans quel texte c'est, un Corinthien 10 nous dit: Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire que, vous voyez, la faveur, une fois qu'on l'a obtenue, c'est assez facile, mais le plus dur, c'est de la conserver, c'est de marcher, de continuer à marcher dans cette faveur-là. Et les quelques principes que je vais vous donner, ce n'est pas une liste exhaustive, on pourrait faire un séminaire, un livre là-dessus, mais c'est quelques principes qui sont en même temps, entre guillemets, mon héritage, ou ce que j'aimerais transmettre à l'Église clé, des choses qui m'ont permis de conserver cette faveur. Pour la recevoir, la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur l'alliance. L'Église clé a été bâtie sur les valeurs de l'alliance. Et je vous ai expliqué que l'alliance, c'était 1 Corinthiens 13. Tout simplement, quand on dit, oh, l'amour, l'amour, il faut s'aimer les uns les autres, ok, mais comment on aime? 1 Corinthiens 13 nous donne une description très précise de ce qu'est l'amour, et c'est ce que j'ai pu vous partager la dernière fois. Et enfin, on a parlé aussi d'humilité. L'humilité aussi attire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est parce que Jésus s'est humilié que Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc l'humilité est aussi un moyen d'attirer la faveur sur une église et sur un individu. Et on a résumé ça la dernière fois par l'humilité, par chercher l'intérêt de l'autre, pas simplement le nôtre, mais on est préoccupé par l'intérêt de l'autre. On est préoccupé par la prospérité, l'épanouissement de l'autre, presque même avant le nôtre. Ça, c'est de l'humilité. Et Jésus nous a dit que le plus grand, il n'a pas dit qu'il y aurait que des gens. Il ne faut pas confondre humilité avec humiliation. Dieu a dit, oui, il y aura des grands dans le royaume de Dieu. Mais il dit, le plus grand sera votre serviteur. Il n'a pas dit, le plus grand sera mon serviteur, c'est celui qui va servir, me servir. Non, non, il dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, ça se passe comme ça. Il y a une faveur qui vient sur ceux qui servent les autres, qui sont motivés par le fait de servir les autres. Alors maintenant, juste quelques pensées pour conserver la faveur. La première attitude qui permet de garder la faveur, c'est l'obéissance. Pour moi, l'obéissance, je le mets même au-dessus de l'amour, parce que l'obéissance me conduit justement à pratiquer l'amour. Voyez, Matthieu 28, qui est vraiment un texte fondateur pour ma vie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'ai appris la semaine dernière aux États-Unis qu'en anglais, ils disent enseignez-leur à obéir. La version anglaise. Enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, il parlait d'obéissance. Vous voyez, là, en ce moment, je vous enseigne uniquement. Je ne vous enseigne pas à observer. Donc il y a une réforme à mener, je fais une courte parenthèse, il y a une réforme à mener en tant qu'Église, en tant qu'individu. Si on veut former des disciples, ce n'est pas juste ce que je fais, ce qu'on fait le dimanche, ne vous enseigne pas à observer. Il faut créer d'autres espaces, d'autres manières qui vont conduire les croyants. Un disciple, comment on forme un disciple? On l'enseigne à observer. C'est-à-dire, en fait, on l'enseigne à devenir obéissant. 1 Samuel 15, verset 22, Dieu lui-même se prononce sur l'obéissance. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Hey, je m'excuse, mais les holocaustes et les sacrifices, ça nous parle de louange et d'adoration, hein? Et là, il nous dit que l'obéissance à la voix de l'Éternel, Dieu y prend encore plus plaisir. C'est fort, hein? On passe beaucoup de temps dans la louange et dans l'adoration. Et c'est bien parce que c'est ce que Dieu aussi nous demande, d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais aussi de toute notre pensée. Et l'obéissance est un. Et Dieu y prend énormément de plaisir. Il continue. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation, pas la lecture, pas la lecture, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc Dieu ici prend plaisir à notre obéissance. Vous savez, si je rencontre énormément de croyants qui sont qu'à peut-être 5% ou 10% de leur plein potentiel. Et la raison est toute simple, c'est parce qu'ils n'appliquent que 5 ou 10% des principes du royaume de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Si Dieu nous demande l'obéissance, c'est parce que, vous voyez, c'est un militaire et puis un général, il faut lui obéir et puis et sinon il va nous punir. Non, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous permet de nous dégager des principes mentaux, éducatifs que nous avons reçus qui de notre éducation, de notre société, qui nuisent à notre épanouissement pour adopter les principes du royaume qui, eux, favorisent la prospérité et l'abondance. C'est le but de l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance qui est bête et méchante. C'est une obéissance qui a pour but de produire votre prospérité et donc d'amener la faveur sur votre vie. Dans Jacques 1, verset 2, il nous est dit « Mettez en pratique la parole ». Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc il est ici parlé de mise en pratique et d'obéissance. Donc notre obéissance, elle ne repose pas uniquement sur des paroles, elle ne repose pas sur votre déclaration, elle repose sur vos actes. Vous voyez, par exemple, moi je peux dire, je pardonne quelqu'un qui m'a vraiment offensé. Je veux dire, ben, je pardonne Greg, par exemple. Ça, c'est une déclaration. Mais si je veux vraiment pardonner Greg, et obéir donc à la parole de Dieu, je dois poser des actes de pardon. Vous voyez, on peut dire, hey, je déclare que je fais du sport, que mes biceps sont en train de gonfler et que les plaquettes de chocolat apparaissent au nom de Jésus. C'est une déclaration. Mais si je ne pose pas des actes quotidiens de musculation, vous voyez, eh ben, ces choses-là vont rester que des paroles. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens et des églises, c'est pour ça que l'école clé existe et qu'il faut s'inscrire. C'est juste pour vous aider à vous conduire à mettre en pratique la parole de Dieu et pas uniquement l'écouter. Ce que je fais le dimanche, là, ce que je suis en train de faire, je vous le répète, je ne mets pas en pratique là. Moi-même, hein, je prie en flag, mais il y a d'autres espaces. Le culte est un moment où on est là pour Dieu, on est là pour s'exhorter ensemble. C'est bon aussi, hein. Mais si une vie d'église, c'est ta vie d'église, ta vie chrétienne, c'est juste ça, venir le dimanche à l'église, il faut que tu aies d'autres espaces. L'école clé en est un. Les groupes de maison en sont d'autres. Les temps de prière le mardi matin de 6 à 8 sont des espaces où là, tu deviens un disciple. Il y a une différence. Le dimanche, c'est les croyants. La semaine, c'est les disciples qui sont en action, qui vont en tournesie, mettre en pratique la parole de Dieu. Deuxième élément qui amène la faveur, c'est l'amour. Jean 13, verset 35, nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est très fort ça, parce que la marque de reconnaissance d'un disciple ici, c'est pas sa vie de prière, c'est pas sa vie d'église, mais c'est l'amour qu'il a pour les autres. Jésus nous dit, c'est à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas à votre vie de prière, pas à votre louange même. Waouh! Si vous avez de l'amour, les uns, ok, pour moi, oui, vous en avez, je vous parle pas de moi, là, je veux que vous vous aimiez les uns les autres. L'amour amène la faveur dans une vie. Pourquoi ? Parce que l'amour est la plus grande et la plus précieuse ressource dont nous disposons ici-bas. Et j'ai beaucoup entendu parler, j'aime beaucoup la culture de l'honneur, la pratique de l'honneur, j'aime ça. Mais ce vers quoi moi j'aspire et vers quoi je me dirige, c'est la culture de l'amour et la pratique de l'amour. Quelque chose que j'ai reçu, je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai prêché à Las Vegas, où je vais toujours prier, il faut venir un jour, hein. Il y a une montagne où on va prier, c'est le désert, c'est magnifique, et je prie là, il y a un silence, et c'est impressionnant, à chaque fois Dieu me parle, et Dieu m'a parlé de ça, il m'a dit, Greg, Jean, moi je voulais être Paul, parce que Paul il a implanté des églises, il dit non, t'es pas Paul, t'es Jean, je veux être Paul quoi. Et peut-être, ouais, tu peux exercer le ministère de Paul, mais tu es Jean. Et j'ai commencé à lire Jean, l'évangile de Jean, les épîtres de Jean, j'étudie ça. Et Jean est vraiment quelqu'un qui a compris ce qu'était l'amour. C'est quelqu'un aussi qui était prophétique. Et cette étude de Jean est en train totalement de transformer ma vie. Et j'ai à cœur de promouvoir la culture, je ne suis pas le seul, fort heureusement, mais la culture et la pratique de l'amour dans l'Église. Imaginez que vous êtes sur une centrale électrique, c'est très dangereux, vous prenez un morceau de bois. Il n'y a aucun danger. Par contre, vous prenez un morceau de fer, ça passe. Et si tous nos fils électriques étaient faits de paille ou de papier, il n'y aurait pas des centrales électriques, il n'y aurait pas de relais. Et la ville de Montpellier serait dans les ténèbres. Mais gloire à Dieu, les ingénieurs montpelliérains sont intelligents et ils ont établi des fils électriques qui sont en métaux, qui conduisent l'électricité. L'amour, c'est relayé au royaume de Dieu. L'amour, c'est ce qui va relayer sur la terre. Tout ce que tu fais, si tu ne le fais pas avec amour, c'est comme s'il y a un bâton en bois branché sur l'électricité. Ça ne passe pas. Un Corinthien nous dit, mais vous pouvez prophétiser, vous pouvez guérir des malades, vous pouvez avoir des œuvres sociales immenses. S'il n'y a pas d'amour, si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Waouh! Et c'est ce qui nous différencie. On dit souvent, ouais, mais vous faites une épicerie sociale, mais il y en a d'autres. Il y a des incroyants qui font, même il y a des athées qui font des épiceries sociales. Mais ce qui nous différencie, ce n'est pas notre organisation, notre logo, c'est la motivation. Il y a une électricité qu'eux n'ont pas. On est branché sur une charge électrique, on est branché. Et c'est parce que si on est connecté à cette présence de Dieu et qu'on est motivé par l'amour, toute la ville de Montpellier va être éclairée. Toute la ville de Montpellier va bénéficier de cette lumière parce que vous êtes des lumières, mais vous ne pouvez briller que si vous êtes connecté à Dieu et que vous êtes motivé dans tout ce que vous faites, dans vos relations au travail, dans la famille, lorsque vous priez, lorsque vous servez à l'église. Est-ce que je suis motivé par l'amour? Moi, très souvent, je ne le suis pas. Alors, je pense que ça doit vous arriver aussi à vous. Parce que moi, qui dois être un exemple, un pasteur, très souvent, Je suis motivé par de l'égoïsme, par de la jalousie, par de l'ambition personnelle. Ça m'arrive. Je me dis, ça doit vous arriver à vous aussi, c'est pas possible. S'il vous plaît, faites oui comme ça pour me rassurer, parce que sinon je vais vraiment culpabiliser et partir par la petite porte dans quelques instants. Non, mais on est tous humains. Je vous livre mon cœur, c'est parce que je pense que vous êtes ma famille et que vous comprenez ce que je veux dire. Même quand tu es un parent et que tu corriges tes enfants, tu peux le faire, mais motivé par l'amour. C'est ça qui amène la lumière. Si tu n'es pas motivé par l'amour, attends. Attends, parce que parfois nos enfants nous font sortir toutes sortes d'émotions négatives. Hein, mais on attend. Et après, on peut corriger. J'aimerais parler de la foi qui amène la faveur. Je ne vais pas lire le texte. C'est dans Nombre 13. Vous savez, c'est le texte où les 12 espions vont parcourir le pays promis, un pays qui est promis, qui doit être conquis. Et sur ces 12 espions, il y en a 10 qui disent « mais ça ne va pas ». Il y a une vision très négative malgré la promesse de Dieu. Il y a une vision très pessimiste et très négative. Dieu dit « hey, voilà votre pays, je vous le donne ». Et eux, ils disent « mais non, il y a des géants, il y a toutes sortes de… ». Ils ne voient pas les choses positives, mais ils voient que les choses négatives. Et il y en a 2 qui ont vu exactement les mêmes choses et qui pour autant ont un autre discours, un discours positif, où ils disent « ben… ». On peut le lire peut-être ensemble, c'est le dernier verset. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. Vous voyez, ils ont un discours hautement positif. Face aux mêmes circonstances, il s'agit de Josué et Caleb, face aux mêmes circonstances, Josué et Caleb n'ont pas réagi de la même manière que le reste des espions. Et ça, c'est la foi, c'est la positivité. Vous avez, en tant qu'Église et en tant qu'individu, vous allez être face à des circonstances identiques, mais ce qui va vous permettre de rentrer dans votre pays promis, d'obtenir les promesses, c'est votre attitude face à ces circonstances. Parce que les 10 espions qui ont eu un discours négatif ne sont pas rentrés dans le pays promis. Mais Josué et Caleb, eux, ont pu y rentrer. À cause, tout simplement, la Bible nous dit, à cause de leur attitude, de leur positivité. Donc j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas vivre positivement en ayant un esprit négatif. On ne peut pas vivre positivement une vie épanouie si on a un esprit négatif. Il faut que tu choisisses. Soit tu gardes ton esprit négatif, il va polluer ta vie et tu vas avoir une vie négative. Soit tu veux vraiment, Greg, je veux une vie positive. Change ton esprit. Garde, développe un esprit positif, même quand les circonstances sont adverses. Je tire beaucoup d'inspiration et d'exemples. Vous le savez, je n'arrête pas de le citer, ça me gêne. Souvent, je dis, Seigneur, donne-moi un autre exemple. Mais je n'ai pas d'autre exemple. Donc, du coup, j'ai dit, bon, tant pis. Je vais encore citer Paul Goulet, qui est un mentor pour moi et quelqu'un qui m'inspire énormément. On a passé une semaine ensemble. C'était un honneur pour moi d'être chez eux. On a fait du vélo, on a parlé, etc. C'était Pour moi, ça, vraiment, ça m'a nourri. Et par contre, sous ces airs de gentil, souriant, sympathique, je fais des câlins à tout le monde, il y a quand même une loi chez lui, c'est que dans ses relations, si tu peux dire « j'ai tel défi, j'ai tel problème », tu peux dire tes défis, mais si à la fin, il y a voilà, juste tes négatifs, il n'y a pas à dire « mais je crois que Dieu est bon, mais je crois que Dieu va m'en sortir, mais je crois que Dieu aura le dernier mot », si tu n'es pas positif, il casse la relation, il coupe tout de suite la relation, parce qu'il dit « sinon, l'esprit négatif qui est sur la personne va venir sur moi. Je m'entoure que de gens positifs. » Et oui, et réalistes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là en train de dire « je vais bien, tout va bien ». On n'est pas là en train de dire « ah non, non, j'ai pas de problème ». On dit les problèmes. Donc, on s'appelle maintenant toutes les semaines et il me dit ses problèmes, je dis mes problèmes. Mais ensuite, on finit par par rapport à ce problème, voici ma foi. Parce que, je répète, on ne peut pas vivre une vie positive si on a un esprit négatif. J'aimerais parler de la prière comme élément essentiel pour attirer la faveur. Dans Ésaïe 56, verset 7, Dieu nous parle de sa maison et il dit, on l'appellera une maison de prière. Il n'a pas dit une maison de service, de relation ou de maison de prière. On voit l'importance que Dieu donne à la prière. La prière est au centre des préoccupations de Dieu. La prière, c'est un élément central dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous, je ne vais pas la lire parce que c'est long, mais parler de Acte 12. Pierre est en prison, injustement. Et parfois, nous, on se trouve comme dans des prisons, des situations où on est conduit à être injustement dans une prison, bloqué, on ne s'épanouit plus, notre existence ne s'épanouit plus, on est comme bloqué. Et ce texte, je l'ai mis en noir, vous pouvez le lire derrière moi, il est en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je suis sûr que Pierre était dans la louange, Pierre essayait de casser les liens. Ce qui est étonnant, c'est que dans Acte 16, Paul et Silas sont libérés, ils sont eux aussi en prison, et puis là, ils sont en train de louer Dieu, puis là, les chaînes tombent, et la prison s'ouvre, et ils sortent. Mais Pierre, un ange est venu le libérer aussi, l'a réveillé, ses chaînes sont tombées, il est sorti de la prison. Mais pourquoi ? Parce que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Et tout comme Pierre, on peut, vous et moi, nous retrouver enfermés injustement dans une situation difficile, avec l'impossibilité parfois de nous en sortir. Et ici, ce n'est pas des intercesseurs ou des spécialistes qui ont prié, mais c'est l'Église. Pourquoi ? Parce que Matthieu 16, verset 18, nous dit que Jésus nous dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Contre qui ? Contre l'Église. C'est pour ça que quand l'Église prie, il y a une puissance. Tu peux prier tout seul, c'est bien, c'est nécessaire. Matthieu 6 nous encourage à prier seul. Mais il faut aussi prier à l'Église. C'est pour ça qu'à Clé, il y a le mardi de 6 à 8, cette possibilité-là de prier ensemble, parce que ça amène une puissance. Ce qui a libéré Pierre de sa prison, c'est un apôtre pourtant, c'est pas sa prière personnelle, c'est la prière de l'Église. Est-ce que tu bénéficies ? Est-ce que tu es intégré ? Est-ce que ta vie, ton ministère, ton service, ta famille, tes finances sont couverts par la prière de l'Église ? L'Église a cessé d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Donc, vous voyez, l'Église a mis en place un mouvement permanent et régulier de prières. Et donc, c'est la prière persévérante qui a activé l'action des anges et qui a permis à Pierre d'être secouru et libéré surnaturellement. Et il y a tellement de pierres à clé, tellement de pierres qui sont en prison, des situations difficiles, des situations bloquées. Et il faut invoquer, pas simplement Jésus, mais la prière de l'Église. Mardi 6 à 8. Venez nombreux. Et l'exemple que j'aimerais donner, c'est deux églises qui nous inspirent en tant qu'église. Extravagance, qui est une église qui inspire vraiment clé, et ICLV, une église aussi qui nous inspire aussi. Et bien, ces deux églises, tous les matins, alors je ne sais pas les horaires, à ICLV, c'est de 6h à 8h du lundi au vendredi. L'église prie, tous les matins. Tous les matins. Et Extravagance, c'est pareil, c'est très tôt le matin, et c'est tous les jours. Intercession, 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 parce que c'est un moment où l'Église exerce son gouvernement, son autorité. J'aimerais, est-ce qu'on peut demander pour terminer à Hervé de venir ? Hervé, est-ce que tu pourrais venir ? Je vais juste prier pour vous. 2 minutes. Je ne parlerai pas du point suivant qui est la mission, mais être impliqué dans la mission amène une faveur. Une église qui est préoccupée par la mission amène la faveur. Mais j'aimerais parler du dernier point. J'aimerais finir 20 ans de ministère à clé en parlant, en essayant de garder mes émotions, en parlant de la chose la plus précieuse pour moi. C'est la relation avec le Saint-Esprit. Ça amène la faveur. Et j'aimerais juste, presque si vous devez prendre des photos, prenez des photos de ce qui est écrit là. Presque, on le mettra sur le site. C'est la plus belle chose que je puisse vous donner, c'est ça, ce qui est derrière moi. C'est de réaliser le cadeau dont vous bénéficiez, qui est la personne du Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un a fait une traversée en bateau, c'est une histoire vraie, et il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il a dit, je vais prendre juste un petit peu je vais prendre de la nourriture pour manger. La traversée durait, je crois, 15 jours. Et il avait juste de l'argent pour payer son billet. Mais pas assez pour payer le repas, les repas sur le bateau. Donc, quand c'était le moment du repas, il était dans sa chambre, il mangeait son petit pain et puis son petit fromage. Sauf qu'au bout de semaine, il n'y avait plus rien. Et il passait comme ça devant le restaurant. Et vous aviez les restaurants sur les bateaux, c'est un luxe. Il y avait des buffets avec tous les poissons, les viandes, les plusieurs desserts. Et lui, pendant une semaine, il regardait ça, les gens mangeaient. Et il repartait. Et tous les jours, il passait devant pendant une semaine, hein, il passait devant et il repartait. Et à la fin du séjour, il sort du bateau et le responsable de la cuisine lui dit « Hey, monsieur, je vous voyais passer devant le restaurant, mais vous n'êtes jamais venu. » Il dit « Oui, c'est parce que j'ai payé juste mon billet, je n'avais pas les moyens de venir au restaurant. » Il dit « Mais monsieur, dans le prix de votre billet, vous aviez l'accès au restaurant, vous pouviez manger, accès au poisson, accès à la viande, accès à tous les desserts qui étaient là. » Et il ne le savait pas. Et malheureusement, ça vous fait rire et ça me fait rire. Mais malheureusement, c'est le type de rapport que l'Église francophone a avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous avez accès à une énergie, une puissance, une ressource de conseil, de sagesse, d'autorité, de puissance. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous n'y accédez pas. Et vous pouvez regarder avec moi ces textes, je ne vais pas prier, mais je veux juste honorer le Saint-Esprit pour ces 20 années où il m'a accompagné, où il m'a formé, où il m'a équipé, où il m'a ouin. Je veux terminer ces 20 ans en l'honorant lui. Et vous pouvez lire avec moi ou prier, mais recevez ce transfert, recevez une nouvelle communion, relation. Oui, je sais que théologiquement, vous savez que le Saint-Esprit existe, vous lui parlez de temps en temps, vous parlez en langue, etc. Ok, mais avez-vous développé une relation aussi intime avec lui qu'avec votre conjoint, si vous êtes marié? Parce que moi, c'est le cas. Je veux traiter le Saint-Esprit de la même manière que je traite mon épouse. Donc, j'ai des temps de qualité avec lui. Vous avez une soirée couple? Moi, il faut une soirée avec le Saint-Esprit. J'exagère un peu, mais c'est de cet ordre-là, voyez. Le Saint-Esprit est en permanence avec nous. Le Saint-Esprit convainc le monde. Le Saint-Esprit conduit à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous libère du péché. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit nous conduit dans nos choix et prises de décision. Et il annonce les choses qui concernent le futur. Galates 5, le Saint-Esprit change notre caractère en produisant le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous communique de la force. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. On est tellement attaché à l'amour de Dieu, mais on a oublié que si nous avons accès à l'amour de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Le Saint-Esprit nous avertit. Joseph a été divinement averti. Le Saint-Esprit communique la joie. Le Saint-Esprit nous inspire dans la prière. Il dynamise notre vie de prière. Et je sais qu'en tant qu'église clé, tu es une église qui aspire aux dons spirituels. Tu es une église qui a soif de la présence de Dieu et du ciel. Tu es une église qui aspire au miraculeux. Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Les dons existent, tu y aspires, mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue en particulier comme il le veut. C'est pour ça, Église, je t'invite tout simplement, je veux terminer tout simplement. Je ne vais même pas prier, c'est à toi de prier. Accueille. La Bible nous parle Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alors je t'invite tout simplement, Église clé, à adopter à partir de maintenant, si ce n'est pas le cas, une attitude de révérence avec la personne, le ministère glorieux du Saint-Esprit, à la fois un ami, à la fois un Seigneur. Le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit, règne, soit accueilli dans tes pensées, dans tes décisions, dans ton avenir, Église, dans tes projets. Sois également couvert par le Saint-Esprit, Église clé, comme Marie a été couverte, pour être fécondée de la part de Dieu. Pas fécondée des hommes, mais une fécondation spirituelle au nom de Jésus, qui n'est possible que par une relation intime avec le Saint-Esprit. Bois sa présence, aspire à sa présence, ouvre-toi à lui, laisse-le te guider, te conduire, t'inspirer, te reprendre parfois, te corriger, t'encourager, t'inspirer des paroles de valorisation, des attitudes d'amour, de pardon à l'égard de tes amis, mais aussi à l'égard de tes ennemis. Laisse-le revisiter le rapport que tu as avec les gens qui t'ont blessé et les gens qui t'ont meurtri. Accueille la Seigneurie du Saint-Esprit dans ta vie, Église clé. Merci Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi.